L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Bon matin à tous, il est 5h pile. Bienvenue dans l'amorce. On est mardi le 19 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. On y a échappé cette nuit pas mal. Côté précipitation, il y a annoncé un peu de neige, un peu de pluie verglaçante. Ça semble s'être bien passé. 25-226 dans votre secteur. Est-ce qu'il y en a eu, là, notamment sur la rive sud en Beauce? Je sais qu'on a annoncé un petit peu plus de précipitation de ce côté-là. Côté rive nord, ça semble s'être déroulé calmement cette nuit à la météo. 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. Ben oui, ça existe. Des fois, il y en a qui se posent la question s'il y a un pendant à la journée internationale de la femme. Ben oui, il y en a un. La journée internationale de l'homme, c'est aujourd'hui. C'est soutenu par l'ONU, donc c'est une journée qui est à peu près officiel, quoique c'est pas célébré partout, là. C'est même pas célébré officiellement au Québec. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de le souligner. Ça a été mis en place en 1999 pour promouvoir des idéaux positifs masculins et également s'attaquer aux problématiques qui touchent davantage les hommes, notamment le suicide. On sait qu'il est plus prévalent chez les hommes. Alors, une bonne journée. Tout particulièrement à vous, messieurs, à vous, mesdames aussi, là, mais un petit mot particulier pour vous, messieurs, en cette journée internationale de l'homme. Les détails météo pour aujourd'hui et les prochains jours. On devrait atteindre zéro aujourd'hui, c'est le maximum qui est prévu. 60% de risque d'averse de neige, pas vraiment d'accumulation par contre qui sont prévus. Risque de pluie verglaçante qui sont encore en vigueur pour ce matin, c'est à noter. Demain, mercredi, c'est encore des nuages avec des risques d'averse de neige. Encore une fois, 60%, donc à peu près le même scénario. 1 degré, c'est ce qui est prévu au mercure pour demain. Jeudi, on aurait droit au retour du soleil, selon les prévisions, maximum de zéro. Si je regarde à long terme, vendredi, on aurait 3 degrés, donc on grimperait encore plus chaud un petit peu, avec un mélange de neige et de pluie, bien entendu, en raison des conditions. Puis si je regarde un peu à long terme, la fin de semaine s'annonce quand même assez ensoleillée, donc de bonnes nouvelles et des températures relativement confortables. Présentement, on a moins 1 à Québec. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'actualité pour alimenter vos conversations ce matin? Ben d'abord, on va avoir dans les prochaines heures la composition du cabinet de Justin Trudeau. Depuis les dernières élections, on se pose un peu la question de quelle façon il va procéder. Lui qui est maintenant en position de gouvernement minoritaire, ça fait en sorte qu'il va peut-être changer un peu ses effectifs, puis mélanger ses cartes, puis faire en sorte peut-être aussi que le Conseil des ministres soit plus important. C'est quelque chose qui est prévu notamment. Et là, il y a des médias qui ont mis la main sur des informations, un peu comme d'habitude, là, lorsque la composition d'un Conseil des ministres à l'avance sur qui pourrait occuper quelle chaise, particulièrement parmi les députés libéraux québécois. Alors voici ce qu'on a comme information, grosso modo. D'abord, c'est Radio-Canada qui sort que Stephen Guilbeault, l'environnementaliste, n'héritera pas du ministère de l'Environnement. On se doute qu'il devait espérer l'avoir, mais ce serait pas le cas. Il serait plutôt ministre du patrimoine canadien. C'est ce qu'attendrait Stephen Guilbeault. Donc, quand même une entrée assez rapide au cabinet de Justin Trudeau, sauf que ce sera pas le ministère de l'Environnement pour l'environnementaliste Stephen Guilbeault. D'autres Québécois qui devraient en gagner du galon. Il y a François-Philippe Champagne, qui était le ministre de l'Infrastructure avant les dernières élections. On dit du côté de Radio-Canada qu'il devrait avoir une promotion importante. Mais on n'a pas le détail exactement de quel portefeuille il pourrait hériter. Mais François-Philippe Champagne, on sait que c'est un ministre qui a fait relativement bonne impression dans le dernier mandat. Alors lui devrait avoir davantage de responsabilités. Et Mélanie Joly, ouais, elle qui a eu certains problèmes dans ses premières armes lorsqu'elle a été ministre, avait été mutée à un moment donné au tourisme et à la francophonie. Bon, puis elle, on y avait dit, bon, vous avez quand même subi une démotion, comment ça se passe, comment vous vivez ça. Mais il semble que Mélanie Joly aurait impressionné dans les dernières années au tourisme et à la francophonie parce qu'on lui réserverait également une promotion à Mme Joly au sein du nouveau cabinet de Justin Trudeau. Et un autre ministre libéral, un ministre sortant libéral qui pourrait gagner du galon, ça c'est selon la presse, c'est Jean-Yves Duclos, le député de Québec, ici dans la région, qui lui était à la famille, ministre de la famille, et lui pourrait hériter du Conseil du Trésor, devenir président du Conseil du Trésor. Donc, ce serait quand même une grosse promotion pour Jean-Yves Duclos au sein du cabinet de Justin Trudeau. On comprend que, compte tenu du contexte, où est-ce qu'il y a eu plus de députés du Bloc québécois qui ont été élus, ben Justin Trudeau va peut-être essayer de faire des fleurs, de donner des fleurs un peu à ses députés libéraux québécois, de donner une place prépondérante au Québec au sein du ministère, du cabinet, pardon, pour faire en sorte d'envoyer le message, ben le Québec est important pour moi, puis bon, éventuellement planifier des prochaines élections qui vont probablement arriver plus tôt que dans 4 ans. Alors, c'est un peu la direction que prendra le cabinet de Justin Trudeau. On aura de toute façon tous les détails lorsque ce sera annoncé officiellement demain, parce que c'est mercredi que cette annonce-là est prévue. De la politique fédérale, on passe à la politique municipale. C'était soir de conseil de ville hier à l'Hôtel de Ville de Québec. Et ce qui retient l'attention, ben, c'est qu'en décembre, on va avoir droit au prochain budget de la Ville de Québec. Et bien entendu, ça a suscité des prises de bec entre l'opposition pilotée par Jean-François Gosselin et l'administration Labeaume. Évidemment que Régis Labeaume se veut rassurant quant à sa gestion des finances publiques. Mais Jean-François Gosselin a été très rapide, très prompt à l'attaquer. Il a souligné que les citoyens pouvaient s'attendre à une mauvaise gestion et de mauvaises surprises.
Les citoyens veulent des arguments, les citoyens veulent des réponses. Fini les insultes, fini les raisons futiles, on en a marre. Les citoyens veulent des réponses à leurs questions. Les citoyens sont capables d'en prendre, ils veulent la vérité, c'est leur argent, c'est leur service. Mais avec l'administration en place présentement, depuis un certain temps, on gère à la petite semaine. On dirait que vous venez d'arriver. On dirait que c'est vous, les apprentis sorciers. Monsieur le Président, si je fais un calcul rapide, on vient d'ajouter 250 millions de dollars au prochain programme triennal d'immobilisation que nous devrons adopter dans un mois. Je calcule même pas des montants ici et là. Par exemple, le théâtre de Diamant, parce que je sais de toute façon, pour vous, 500 000 $ ce sont des petites affaires pour lesquelles il faut arrêter de gosser. Hein, Monsieur Normand? Les factures gonflent, les citoyens vont avoir de mauvaises surprises au prochain budget.
Bon, alors bien entendu, c'est son rôle de s'opposer puis de mettre en relief certaines failles dans l'administration. Évidemment, Régis Labeaume, fidèle à lui-même, n'a pas trop tardé avant de répliquer à l'endroit de Jean-François Gosselin, puis il n'a pas été tendre, comme d'habitude, envers le chef de l'opposition officielle.
Savez-vous, dans le fond, là, au-delà de tout ce que dit le chef de l'opposition, parce que c'est toujours charmant, ces avertissements pré-budgétaires-là, et honnêtement, ça nous empêche de dormir, surtout le ton avec lequel le chef de l'opposition donne sa prestation, qui est vraiment terrifiante. Monsieur le Président, il en demeure pas moins que la dette continue à baisser, malgré tous les atermoiements. Il en demeure pas moins qu'on taxe à l'inflation, puis cette année, les commerces aussi à l'inflation. Alors, au-delà de tout le babillage qu'il dit, le résultat, ce qui est le plus important, c'est le résultat. On avait dit que la dette baisserait, elle baisse. On avait dit que les gens seraient taxés à l'inflation, sont taxés à l'inflation.
Ce ne sont pas des explications qui ont suffi aux conseillers de l'opposition. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont trois dans l'opposition de Québec 21. Et Patrick Paquette, qui est un ancien d'équipe Labeaume, faut le souligner quand même, qui a été élu récemment conseiller, eh bien, il est revenu à la charge contre Régis Labeaume en mettant encore en relief l'augmentation de la dette. Donc, une attaque, une charge assez cinglante à l'endroit de son ancien patron, qui n'a pas tardé encore une fois à répliquer.
Et la vérité, M. le Président, c'est quand le maire est arrivé en poste, on avait une dette d'environ 800 millions. Il l'a grimpé à 1,6 milliard. Il l'a grimpé de 800 millions, le maire à lui seul avec son administration. C'est ça la réalité. La réalité, M. le Président, plusieurs économistes nous disent qu'une récession nous guette. Le maire, là, il joue pompier pyromane. Il a géré pendant 10 ans avec des revenus. Ça rentrait par tout bord, tout côté, ici à l'Hôtel de Ville. La journée qu'on va tomber en récession économique, M. le Président, il va avoir des revenus qui ne seront pas au rendez-vous. Et ça sera pas la même game. J'aime pas ça que le maire se vante d'avoir l'avoir bien géré depuis 10 ans dans le contexte économique qu'on vit depuis les 10 dernières années. Merci, M. le Président.
Je suis toujours étonné ce qu'il peut se dire de côté. M. Paquette est extraordinaire. Oui, la dette a doublé, c'est juste que les revenus ont doublé. M. le Président, la dette a doublé, mais les revenus ont doublé. Le budget total de la ville a doublé. Allô?
Alors voilà, ça c'était sur le budget. Puis ici, je l'avais vous demandé à vous faire deviner quels ont été d'autres sujets chauds qui ont été abordés au conseil de ville. Je suis persuadé que vous arriveriez assez rapidement avec la réponse. Ben oui, les midibus, le tramway. On est beaucoup dans les mêmes choses, hein, les mêmes sujets qui reviennent à l'hôtel de ville dans les derniers mois. Bon, l'opposition qui dit ça coûte cher le tramway, la population en veut pas. La ville qui dit ça va bien aller, puis on est prêt. Puis les midibus, bien entendu. Ben j'ai pas besoin de vous rappeler tout ce qu'on connaît à propos des midibus, mais la ville s'est encore défendue. Et juste vous résumer un peu, mais Régis Labeaume m'a dit quand même admis qu'il aurait dû donner des explications plus rapidement par rapport aux midibus à la population, pour les rassurer quant au fonctionnement de ces autobus, dont, disons, de la vision générale, même si on a fourni certains chiffres qui semblent, en quelque sorte, confirmer qu'il y a une période de rodage pour ces autobus-là. Même là, la vision dans la population, je pense, des midibus, c'est qu'ils ont tendance à être en panne puis au garage plus qu'à être sur la route. Alors, le maire Labeaume qui a quand même pris la peine de dire « j'aurais dû en parler un peu plus tôt ». Un petit mot pour vous dire que vous vous souvenez que Groupe Capital Média, ça c'est le conglomérat qui comprend plusieurs journaux au Québec, plusieurs quotidiens, notamment Le Soleil. Vous avez également Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, Le Droit. Donc c'est plusieurs quotidiens au Québec qui étaient menacés. Hein. Groupe Capital Média qui avait fait faillite. Et là, on essayait de trouver un moyen de sauver ces journaux-là. Il y a eu une aide d'urgence qui a été accordée par le gouvernement du Québec. Et on se demandait qui allait se porter acquéreur de Groupe Capital Média. Ben, il semble que ce soit un modèle de coopérative qui va être mis de l'avant par le gouvernement Legault, qui est le principal créancier en passant du groupe Capital Média. Là. Et ce sera annoncé aujourd'hui de façon à ce que le groupe soit sauvé en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que c'est assuré que ce soit une coopérative qui va s'occuper du groupe des journaux du défunt groupe Capital Média, mais c'est la direction qu'on veut prendre pour tenter de sauver les journaux. Donc, c'est un plan d'affaires qui indique qu'il y a 21 millions de dollars qui seraient injectés dans la nouvelle structure. Il y a le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins, qui investirait 4,5 millions. Également, le Fonds de travailleurs, Fonds d'action de la CSN, 1,5 millions. Et il y aurait également un prêt remboursable de 5 millions de la part d'Investissement Québec. Donc, ce serait le montage qu'on aurait en place pour essayer de sauvegarder, notamment le quotidien Le Soleil. Donc, il n'y aurait pas d'achat de la part d'un autre gros joueur des médias. Par exemple, Québécois, lui, ça a longtemps circulé que ce serait Québécois qui fasse l'acquisition de ça. Ce serait un modèle de coop pour les défunts journaux. En fait, pas les défunts journaux, mais les journaux du défunt groupe Capital Média. Parce que les journaux sont encore là. D'ailleurs, je vais poursuivre avec le rapport de l'article d'une des journalistes du Soleil en lien avec une affaire judiciaire qui est pas commune, qui a débuté au Palais de justice de Québec. Hier, c'est une affaire de prostitution, pas de prostitution, mais de pornographie juvénile, pardon, où est-ce qu'un ex-avocat est en cause, un ex-avocat de 31 ans qui s'appelle Antoine Gagnon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les derniers mois, mais le procès débutait hier. C'est un avocat qui s'est fait venir au Québec, fait livrer à la maison de la Chine une boîte contenant une poupée gonflable ou une poupée en silicone représentant un enfant. Okay. Comment ça s'est passé exactement? C'est que la poupée représentant la fillette est arrivée à l'aéroport de Mirabel en mai 2017. Et là, sur place, les agents frontaliers se sont saisis de la boîte, du colis en question. Et là, ils ont vu l'adresse du destinataire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, compte tenu de ce qu'il y avait dans la boîte, ils ont contacté les services policiers. La police de Québec, pour leur part, sont allés faire de la filature, en fait, en se livrant. En livreur de la compagnie UPS, ils ont livré la boîte, le colis, au logement d'Antoine Gagnon. Et par la suite, ils ont continué à faire de la surveillance autour. Et peu après, les policiers ont procédé à l'arrestation d'Antoine Gagnon. Ce qu'on note dans Le Soleil ce matin, c'est que la boîte n'a jamais été ouverte par Antoine Gagnon. Alors ça, c'est un élément qui sera peut-être retenu éventuellement dans le procès. Ce qu'il y a vraiment au cœur de cette affaire-là, qui est assez délicat, c'est que, évidemment, au sens du code criminel, il y a une description de ce qu'est de la pornographie juvénile. Sauf que, voyez, la poursuite dit c'est de la pornographie juvénile, puis Antoine Gagnon savait très, très bien dans ce quoi il embarquait quand il a commandé ça. Il savait très, très bien c'était quoi, puis à quel usage ça pouvait servir. Mais la défense dit, Antoine Gagnon, lui, il savait pas c'était quoi exactement. Il savait pas à quoi ça pouvait servir comme usage. Puis il savait pas non plus que ça constituait de la pornographie juvénile. Même s'il admet du côté de la défense qu'il s'est bel et bien fait livrer un colis de la Chine. Alors, hier, c'est assez particulier ce qui est arrivé. C'est que la poupée en question a été montrée au juge, le juge Jean Asselin de la Cour du Québec. On a sorti la poupée de la boîte, en huis clos en passant, parce qu'on a fait sortir les gens du public, mais il y a des journalistes qui ont pu assister à ça, et donc on a sorti l'objet de la boîte. C'est assez malaisant de lire ça ce matin, la description qui est assez clairement une poupée qui représente un enfant avec des caractéristiques qui laissent pas vraiment de doute à l'usage qu'on peut faire de cette poupée-là. Et là, donc, le juge va devoir trancher. Est-ce que bel et bien, cette poupée-là constitue de la pornographie juvénile? D'ailleurs, il a dit aux journalistes, je vous invite à aller relire les articles du Code criminel qui concernent la définition de pornographie juvénile. Ça peut peut-être vous donner une idée pour votre travail. Je suis allé ce matin, c'est l'article 163 concernant les chefs d'accusation concernant de la pornographie juvénile. Puis, c'est quand même délicat de savoir exactement s'il va statuer que ça en est parce que vous avez pas en tant que tel la définition claire d'une poupée de ce type-là. Vous avez évidemment représentation photographique, filmée, vidéo. Vous avez un écrit, un enregistrement sonore. Vous avez également un écrit dont la caractéristique est la description d'un acte sexuel avec une personne moins de 18 ans, enregistrement sonore dans la même veine. Sauf que vous avez aussi toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle. Donc, est-ce que c'est ce que le juge va statuer? C'est-à-dire que, c'est clair, c'est une poupée qui sert à un usage sexuel et qui sans contredit une représentation d'une personne mineure, ben si c'est le cas, ben Antoine Gagnon pourrait être reconnu coupable d'importation et de possession de pornographie juvénile. C'est un procès qui devrait durer 2 semaines et qui devrait quand même jeter les bases d'une certaine jurisprudence, parce que c'est pas tous les jours qu'on juge quelqu'un sur l'importation d'un tel objet. 5h15, courte pause, on jase de sport au retour.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Jamais on ne vous a présenté un événement aussi exceptionnel chez Volvo de Québec.
C'est vraiment une liquidation historique. Les clients n'en reviennent tout simplement pas.
Des rabais de 5, 6, 7 et même 8 000 $ sur plus de 40 véhicules.
Jusqu'à 8 000 $ de rabais sur des XC60, XC90, des sédans, des familiales et plus.
Et on vous donne vos pneus d'hiver.
Tout est déjà négocié à des prix jamais vus dans toute l'histoire de Volvo de Québec.
45 véhicules neufs et démonstrateurs à liquider.
Faut faire vite, ça part vite.
Seulement chez Volvo de Québec.
VolvoDeQuébec.com.
Mes hommages, oh mon amour!
Allô? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Ça sent bon, en tout cas.
Il s'agit de l'œuvre divine d'un maître rôtisseur. Une poutine Benet et compagnie où trône ce poulet tout juste sorti du four. Le dilemme dont elle fait l'objet m'obsède.
OK. Puis c'est quoi ton dilemme?
Partager ou ne pas partager? Telle est la question.
Chez Benet et compagnie, vous avez le choix parmi 3 poutines. La régulière, la Benet et compagnie au poulet et la taille. Et vous choisissez aussi si vous la partagez ou pas.
Et vous, oh cher ami, êtes-vous généreux en Benet et compagnie?
Depuis que Solange a appris qu'elle souffrait d'ostéoporose, elle a choisi Clinix pour son examen de suivi. Rapide et sans douleur, l'ostéodensitométrie est l'examen de choix pour vérifier la santé de vos os. Et chez Clinix, vous aurez un rendez-vous rapidement.
Faites comme Solange. Choisissez Clinix. Un seul nom, 3 localisations. La Cité, le Ménil et Val-Bélair. Parce que votre santé nous tient à cœur.
653-9933.
ClinixImagerie.com.
Quand on parle du Lexus NX 300 2020, on parle de style audacieux, de technologie intuitive et de finition exquise. Mais on parle aussi de luxe accessible, avec 3 500 $ de crédit à la livraison et aucun acompte sur la location. Vivez l'exceptionnel à partir de seulement 43 220 $ ou 229 $ aux 2 semaines en location 40 mois. Boulevard Lexus, angle de la capitale et Pierre-Bertrand Sud. Un total de 86 versements, 48 000 km alloués et 20 cents du kilomètre excédentaire, taxe en su.
Salut, capitaine. Qu'est-ce qui marche pas, là?
Je sais pas ce qui se passe. Ça marche pas comme d'habitude. J'ai bizarre à starter le matin. C'est comme si j'avais de l'eau dans le gaz ou quelque chose.
OK.
C'est peut-être ma batterie qui est à terre.
Ouais. Allume. Si t'as plus de jus, attends pas. Il y a des solutions pour filer mieux sur allume.org. Une initiative du programme Et moi, comment ça va?
CocoFiesta.ca. Pour vos parties de bureau ou événements corporatifs, embarquez à bord du vol en direction de CocoFiesta. Le concept de soirée festive CocoFiesta s'amène à Québec. Un événement parfait pour faire la fête en groupe. Sur scène, danseurs, costumes flamboyants, écrans géants et confettis. Vivez un souper-spectacle tropical suivi d'une soirée dansante. Réservez la date pour votre party de Noël de l'an prochain ou encore assistez à la soirée CocoFiesta ce vendredi au Hilton Québec. Réservez maintenant via cocofiesta.ca.
Bonsoir et bienvenue au match FM 93 au Rempart de Québec.
Ouais.
Finalement, j'aime mieux être assis dans les estrades avec vous autres.
Ce vendredi, soyez là pour le match FM 93 des Remparts. Les premiers auditeurs à se présenter recevront un cadeau. Il y aura des jeux aux couleurs du FM 93, de l'ambiance dans les estrades et comme jamais sur la glace, parce que les Remparts vont affronter les Cataractes de Shawinigan. Soyez là ce vendredi pour le match FM 93 au Rempart de Québec. Une belle association entre les Remparts et le FM 93.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
On poursuit ça dans l'amorce à 5h19. Merci d'être avec moi. On est mardi le 19 novembre 2019. Voici ce qui vous attend à la météo dans les prochaines heures et les prochains jours. Aujourd'hui, maximum de 0. Drette sur le point de congélation avec 60% de risque d'averse de neige. On parle toujours de risque de pluie verglaçante ce matin. Remarquez, ça semble pas être tombé très fort cette nuit. Corrigez-moi si je me trompe, là, mais en tout cas, sur la rive nord, il semble pas y avoir eu de pluie verglaçante. Je sais qu'on en prévoyait un peu plus sur la rive sud. Dites-moi ce qu'il en est au 25-226, si ça vous tente. Demain, mercredi, c'est un maximum de 1 degré. 60% de risque d'averse. Jeudi, c'est ensoleillé avec 0. Vendredi, 3 degrés, c'est la journée la plus chaude de la semaine avec un joyeux mélange de neige et de pluie, tout dépendant de la température qu'on va atteindre. Et présentement, on atteint moins 1 au mercure à Québec. Salut, Will.
Salut, mon Jean-Simon.
D'abord, intronisation importante au temple de la renommée du hockey hier. Ouais, Guy Carbonneau. Ouais.
Entre autres, Guy Carbonneau, 5 autres membres du Temple, dont fait partie Ellie Wakanizer, Sergei Zubov, Jim Rutherford, ça c'est les noms les plus connus. Mais Guy Carbonneau, oui, a été officiellement intronisé hier au Temple de la Renommée, c'était la cérémonie à Toronto. Et surtout, ce que j'ai trouvé le fun, c'est Bob Gainey, son ancien coéquipier et patron avec le Canadien, qui est venu lui remettre sa plaque d'intronisation. Puis on sait que les deux sont des grands amis, mais ça s'est terminé sur un fret. Un malaise en 2009 quand Gainey, à l'époque directeur général du Canadien, a congédié Guy Carbonneau. Par la suite, Guy ne s'en est pas caché, le même compté publiquement que Gainey était venu le voir à sa maison un soir de semaine à 10h, cogne à la porte. Ouais, veux-tu un café? Ouais, non, ce sera pas long, Guy.
Ah oui, il l'avait viré de même.
Oui, absolument. Ben, t'es venu le voir. Ouais, laisse faire le café.
Ouais, ben, c'est ça.
Puis il n'est pas obligé de te présenter demain au centre d'entraînement parce que t'es congédié. Puis ça a créé un fret entre les deux. Puis je pense hier, ça s'est terminé un peu. Et puis Guy Carbonneau était surpris et même ne le savait pas que c'est Bob Gainey qui allait lui remettre sa plaque d'intronisation. Alors ça a donné un bon moment, mais je te dirais que le discours le plus inspirant a été celui de Ellie Wakanizer. C'est probablement encore aujourd'hui reconnu comme une des meilleures joueuses dans le monde du hockey, dans l'histoire du hockey. Ouais. Elle a même joué pro avec des hommes en Suède de 2002 à 2004. Puis c'était vraiment inspirant son discours, la place des femmes dans le hockey et tout ça. Donc c'était une belle soirée hier à Toronto pour l'intronisation du Temple de la Renommée.
On passe au hockey mineur parce qu'on a des changements dans les catégories.
Ouais, ça c'est une grosse nouvelle, Jean-Simon. Okay? Hier soir, Hockey Canada, ça c'est l'organisation qui chapeaute le hockey mineur partout au pays, annonce une modification des noms des différentes catégories. Donc, à compter de la saison prochaine, c'est terminé les
novice,
niveaux.
Bantam,
novice,
ça.
Exact. Okay. Novice, Atom, puis oui, Bantam et Midget. Ouais. On enlève ça et puis on va les séparer maintenant en catégories d'âge. Donc, le novice devient le M9, les moins de 9 ans. Atom, M11, les moins de 11 ans, ainsi de suite, jusqu'à Midget, les M18, les moins de 18 ans. Alors, ça se fait dans les autres sports, entre autres au soccer, c'est de même qu'on différencie les groupes d'âge, les U18, Under et tout ça.
Ouais.
Mais je sais pas, hockey, c'est notre sport national, c'est de même depuis belle lurette. Pourquoi du jour au lendemain on a décidé de changer les noms des catégories? Ça, je m'explique mal, puis à part une décision bureaucratique, je sais pas ça sert à quoi.
Puis oui, va devenir quoi comme nom?
Va devenir les M13.
Alors j'ai hâte de voir le prochain tournoi M13.
Ouais.
Ça va être bon ça à Québec,
c'est
le tournoi M13.
J'sais au moins si Patrick Dhomme, le président du tournoi Pee-wee, a confirmé que pour la prochaine saison, ça allait être le tournoi international Pee-wee de Québec.
Bon, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un petit peu moins vendeur le tournoi M13. Merci beaucoup Will.
Merci
on s'en parle dans quelques minutes. J'attire votre attention en terminant sur la Une Journal de Québec. C'est un sondage qui a été réalisé par Léger et l'Union étudiante du Québec concernant la détresse psychologique chez les étudiants universitaires. C'est des informations qui corroborent un peu ce qu'on glane un peu à gauche et à droite, les témoignages qu'on voit sur les médias sociaux, des étudiants qui parlent aussi, puis pas juste chez les étudiants, en passant un peu dans toutes les strates de la population. Il semble que détresse psychologique et maladie mentale soient plus prévalentes un peu partout dans la société, et notamment chez les étudiants universitaires. Donc, on a interrogé à peu près 24 000 étudiants dans 14 établissements universitaires au Québec. Et on est arrivé à la conclusion que 60 % d'entre eux présenteraient un niveau élevé de détresse psychologique. Qu'est-ce que ça peut être? Bien, ça peut être notamment des symptômes de dépression sévère qui nécessitent un traitement. Il y a 20 % notamment des étudiants qui ont dit qu'ils souffraient de dépression d'une façon ou d'une autre, là, de certains symptômes dépressifs. Et la statistique qui m'a fait le plus sursauter peut-être, c'est que sur les 24 000, il y en a 9 % des répondants qui ont dit qu'ils ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois, donc au cours de la dernière année. C'est franchement préoccupant de voir que les étudiants se sentent aussi seuls ou mal accompagnés ou ressentent de la pression, parce que c'est beaucoup la pression qui semble mise en cause. Là. Quand on va en interroger quelques-uns dans les articles du Journal de Québec ce matin, là, on dit que l'anxiété de performance fait en sorte que, justement, il y a des symptômes de détresse qui se développent. Il y a une étudiante qui s'appelle Andréane qui dit « Pour mettre des chances de mon côté, ben, je mets des heures et des heures et des heures. Je dors plus la nuit. Le travail est exigeant. Je peux pas travailler beaucoup. Je deviens serré dans mes finances. J'ai pas le temps de voir mes amis, tout ça. Donc, je développe un paquet de symptômes d'anxiété, qui font en sorte que présentement, je suis un peu en détresse. Et le problème, c'est que l'attente pour avoir des services de psychologue, notamment, vous savez que, bon, dans les universités, ils offrent des services de soutien psychologique souvent aux étudiants. Ben, souvent, c'est très long. Fait que, alors, les gens se mettent sur des listes d'attente. Un peu comme au public, pour les gens ici, là, qui veulent voir un psychologue dans un CLSC. Pas plus facile pour les étudiants. Parfois, ça prend jusqu'à 6 mois, puis ça fait en sorte que les symptômes s'aggravent pendant ce temps-là. Donc, pour plusieurs étudiants, plusieurs milliers d'étudiants au Québec, il semble que la pression, l'accord travail-études, la difficulté de gérer leur horaire fait en sorte qu'il y a plus de détresse qu'avant. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs en lien avec la génération, en lien avec la façon dont on voit les choses dans la société? Votre réponse est aussi bonne que la mienne. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On se reparle dès demain matin, 5h. Dans quelques instants, c'est Bouchard en parle. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.